sur un texte bien connu de l'apôtre Paul que je vous invite ce matin à porter vos regards. Un texte que nous trouvons dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 12, et qui concerne les dons spirituels. Nous lirons une grande partie du chapitre. 1 Corinthiens 12. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que personne ne peut dire « Jésus est Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier, comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul Esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Et s'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, secourir, gouverner, parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Un chapitre très riche et surprenant. Dans la mesure où un chapitre qui entend clarifier les dons dans l'Église, un chapitre qui insiste sur l'utilité de chacun pour le bénéfice de tous, ait pu susciter au cours des siècles autant de polémiques et de controverses quant à la grandeur de tel ou tel don que l'un pense avoir et que l'autre n'a pas. On peut penser que les diverses interprétations de ce chapitre qui alimentent les conflits ont pour origine les mêmes difficultés, les mêmes confusions que celles qui existaient dans l'église de Corinthe du temps de l'apôtre Paul. Vous savez combien les Corinthiens se posaient de questions, d'où le rappel à Paul pour clarifier un certain nombre de ces difficultés, sujet concernant les femmes, les vierges, les viandes sacrifiées aux idoles, les dons et leur nature dans ce chapitre. Les Corinthiens, et Paul nous le rappelle dès le début de l'Épître, au chapitre 1er, verset 7, les Corinthiens ne manquaient d'aucun don. Ils en avaient à profusion. Le problème, c'est qu'ils ne savaient pas les gérer, les utiliser dans l'Église pour le bien de chacun. Et Paul va adresser, dès le début de sa lettre, une mise en garde sévère à l'encontre de ces Corinthiens dont l'influence néfaste du passé idolâtre revenait encore à la surface et qui ne prenaient pas considération de ce qu'est l'Église, de ce qu'est l'Église en tant que corps de Christ pour utiliser les dons qu'ils avaient reçus de manière efficace. Cette mise en garde que Paul adresse aux Corinthiens, je pense qu'il pourrait nous l'adresser aujourd'hui encore, car dans certaines de nos églises persistent encore des préjugés ou quelques abus que Paul dénonce dans ce chapitre. Paul affirme, dès le début de ce chapitre 12, qu'un seul et même esprit accorde ses dons à ses enfants. Alors, pour nous recentrer sur l'importance de ces dons, sur la manière de les utiliser, je vous invite ce matin à étudier quelques points qui me paraissent essentiels dans ce chapitre et à en tirer des conséquences, non seulement pour notre vie personnelle, mais plus encore pour notre vie d'Église. Je vous invite à voir dans un premier temps la source des dons, leur origine. Elle nous est définie comme étant le Saint-Esprit lui-même. Dans un deuxième point, nous verrons le caractère, la nature des dons, leur complémentarité et le fait qu'ils sont donnés pour l'utilité commune. Et enfin, dans un troisième temps, nous verrons l'objet ou le but des dons. Chacun d'entre eux participe à l'édification de l'Église et a pour but, à travers elle, de rendre honneur et gloire à Dieu, notre Père. Alors, premier point, la source des dons donnés par l'Esprit. Les chapitres du début de cette épître nous dépeignent une église de Corinthe multivariée, très cosmopolite. Il y avait dans cette église des juifs, des non-juifs, des esclaves, des pauvres, des riches, des sages et même quelques personnes éminentes de ce bas monde. Un assemblage très varié, très cosmopolite et propice, comme lorsque nous nous retrouvons dans une communauté très variée, à des conflits parfois difficiles à résoudre. Et Paul, par ce texte, veut mettre en garde ses Corinthiens. Dès le début du chapitre, Paul veut clarifier la situation et il va mettre l'ensemble de la variété des dons spirituels en rapport avec leur origine. Pour montrer l'origine des dons, Paul, dès le verset 3, fait allusion à Dieu, puis à Jésus, puis au Saint-Esprit. Et puis dans les versets 4 et 6, il évoque ces personnes dans l'ordre inverse. Or, il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de services, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Alors ce n'est pas, selon moi, la Trinité en tant que telle que l'apôtre Paul évoque ici. Même si le Saint-Esprit et le Seigneur ne peuvent pas être évoqués s'ils ne sont pas Dieu en égalité avec le Père. Non, il est clair que le Seigneur Jésus, quand Paul évoque Jésus, apparaît ici non en tant que fils, mais en tant que chef de l'Église, en tant que tête du corps. Et c'est sur cela que Paul reviendra. Et s'il est parlé de Dieu en tant que tel, ce n'est pas en tant que Dieu, en tant que Dieu distinctif et personnel, mais en tant que Dieu qui régit tout en tous et qui dispense à chacun les dons par son esprit. Il ne s'agit pas donc d'une division en trois catégories de dons, mais en substance, on peut considérer que ces dons sont présentés sous trois aspects ou sous forme de trois liaisons, de trois relations. Les dons sont en relation avec l'esprit. C'est lui qui les distribue. Les services sont en relation avec le Seigneur, sous l'autorité duquel et pour la gloire duquel ils sont exercés par chacun de nous de manière responsable. Enfin, les actions ou les opérations sont évoquées en relation avec Dieu. C'est Dieu et non pas l'homme, comme je le disais, qui opère tout et en tous. Premier point donc, les dons sont accordés aux enfants de Dieu par l'Esprit de Dieu lui-même, selon son bon plaisir. Et il est important de voir que chacun a reçu un don. Nul ne peut dire « je n'ai rien reçu ». Lui, il en a reçu plein. Moi, je n'ai rien eu. L'apôtre Paul est affirmatif. Nous avons tous reçu au moins un don. Et Paul va montrer l'unité de la divinité par rapport aux différents dons qu'il évoquera tout à l'heure. L'origine de tous les dons, donc, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En insistant sur ce point, l'apôtre Paul va montrer aux Corinthiens que la diversité des dons et les manifestations de l'esprit n'avaient rien à voir avec la multiplicité des idoles que les Corinthiens non convertis adoraient et que peut-être même certains chrétiens de l'église de Corinthe avaient encore dans leur esprit. La réalité, c'est que l'origine des dons, c'est l'Esprit de Dieu, que tous les dons procèdent du Saint-Esprit. Mais par ailleurs, ces dons ne sont pas accordés en vue de nos capacités personnelles, de nos mérites personnels. C'est la grâce souveraine de Dieu qui les distribue à chacun. Nul ne peut dire oh, « je suis meilleur qu'un tel, j'ai reçu tel don ». Non, c'est Dieu qui accorde. C'est Dieu qui manifeste envers chacun de nous sa grâce, distribuant selon son bon plaisir à chacun un don pour l'utilité de l'ensemble. Des dons de la grâce divine. Quel privilège d'être au bénéfice de la grâce de Dieu, non seulement parce qu'il nous a sauvés, parce qu'il a fait de nous ses enfants, mais la grâce de Dieu dans nos vies qui se manifeste par l'attribution à chacun de qualités, de spécificités propres dans l'Église pour la gloire de Dieu. Nous y reviendrons tout à l'heure. Il ne s'agit donc pas de facultés naturelles de l'homme qui sont à l'origine de ses dons, mais Dieu, dans sa grâce, peut utiliser nos capacités pour les mettre à son service et les transformer. Il y a des hommes qui étaient des musiciens ou des peintres qui peignaient avant d'être chrétiens. Je pense à Sassandra, à d'autres musiciens, et qui, lorsqu'ils ont été transformés par la grâce de Dieu, ont vu le don qu'ils avaient de manière naturelle être mis au service de Dieu et transformé, amplifié de telle manière que ce don a pu faire élever au sein de l'Église la gloire de celui qui en est le chef. Ainsi, tous les dons évoqués dans ce chapitre, sur lesquels nous allons revenir maintenant, ont tous une même nature, une même origine, le Saint-Esprit. Voyons maintenant le caractère des dons, leur nature. Dons qui sont infiniment variés. Chaque chrétien en dispose d'au moins un. Mais nous devons réaliser que dès l'instant où nous avons ce don qui nous a été donné, qu'il a été versé, répandu en nous, il ne doit pas être développé pour nous mettre en valeur personnellement. Celui qui a le don de la parole, celui qui a le don d'orateur, ne doit pas mettre en avant ce caractère spécifique pour se valoriser. Non. Il doit être utile, et nous y reviendrons, pour manifester la gloire de Dieu. Alors, quelle est la nature et le caractère des dons dans un premier temps? Dans ce chapitre, Paul va faire une énumération de quelques-uns d'entre eux. Je dis bien de quelques-uns d'entre eux. La liste n'est pas une liste que l'on peut mettre avec un point final et dire « il n'y en a point d'autre ». Non. Il y a d'autres textes, d'ailleurs, sur lesquels vous pourrez vous appesantir pour retrouver l'évocation d'autres dons. En Romains, chapitre 12, versets 6 à 8, où l'apôtre Paul encore nous dit « puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement et celui qui exhorte à l'exhortation. » Aux Éphésiens, Paul encore rappelle, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Éphésiens 4, 11. Et Paul n'est pas le seul à parler des dons. L'apôtre Pierre, dans son épître, nous dit ceci d'une autre manière. « Comme de bons dispensateurs des grâces diverses que Dieu vous a accordées, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Pierre est donc beaucoup plus général. Il n'insiste pas sur tel ou tel don, mais sur le don que vous avez reçu. 1 Pierre 4, 10. Ainsi, les qualités, les valeurs, l'importance de tel ou tel don qui nous ont été donnés, même les plus surnaturels, celui de guérison en particulier, n'ont pas pour but de nous enorgueillir nous-mêmes, de nous exalter, de dire « je suis le meilleur ». Non, nous ne sommes que des pécheurs graciés auxquels Dieu a accordé des faveurs en nombre. Cet épanouissement du corps de Christ n'est possible qu'à partir du moment où nous allons mettre au service de tous le don qui nous a été donné. Et si Paul, dans les versets 7 à 11, va parler de 9 dons, nous allons très rapidement y venir, ce n'est qu'un aperçu de tous les dons que Dieu est à même, par son esprit, de distribuer à chacun d'entre nous comme il le souhaite. Je dirais même que certains des dons que nous allons voir ont probablement été accordés à l'Église du 1er siècle à titre temporaire, c'est-à-dire que ces dons, nous ne les retrouvons plus aujourd'hui. Alors, quels sont ces dons évoqués? La sagesse. Si vous vous rappelez, il n'y a pas très longtemps que j'avais parlé sur ce thème. Perspicacité de ceux qui sont capables d'expliquer clairement les choses spirituelles telles que Dieu les voit, pas telles que les hommes les voient, telles que Dieu les voit. La connaissance, capacité d'appliquer la vérité doctrinale des Écritures dans notre vie quotidienne. Et Paul, pour bien montrer que cette connaissance est utile dans notre vie quotidienne, va répéter à maintes reprises « Ne savez-vous pas que ?» Rappelez aux Corinthiens « Telle et telle pratique. » Troisième don évoqué, le don de la foi. Alors la foi, en tant que don spirituel, ce n'est pas la foi au sens commun du terme, c'est-à-dire le fait d'avoir cru, parce que Jésus-Christ a touché notre cœur à ce que Christ est mort pour nous pécheurs. Ce n'est pas de cette foi-là qu'il est parlé. C'est une confiance exceptionnelle, la foi dont parle ici l'apôtre Paul, sans commune mesure avec celle exercée par la plupart des chrétiens que nous sommes, qui avons mis notre espérance en Jésus-Christ. C'est un peu ce genre de foi dont parle l'apôtre Paul quand il dit en 1 Corinthiens 13 « Quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter les montagnes. » Une foi que nous n'osons à peine imaginer. Et pourtant, il en est. Il en est quelques-uns dans nos églises qui ont cette mesure de foi spécifique accordée par Dieu. Un autre exemple de don, celui de guérison, qui est la capacité à rendre la santé. On le trouve, par exemple, dans les mains de Pierre, qui tout au début du livre des Actes guérit ce paralytique à la sortie du temple. Acte 3, verset 7. Ou encore de l'apôtre Paul, résurrection de Tychus au chapitre 20 du livre des Actes. Des actes de guérison extraordinaires. Nous pouvons encore en voir aujourd'hui dans la pensée de l'apôtre Paul. Ce don de guérison est encore disponible aujourd'hui. Si nous mettons notre confiance en Dieu pour opérer de tels miracles, et surtout, si ceux qui en sont l'objet ont cette assurance que Dieu peut faire quelque chose pour eux. Le don d'opérer des miracles, oui. Il peut faire allusion au fait d'exorciser les démons, comme nous le voyons dans le livre des Actes au chapitre 19, ou encore de provoquer une infirmité, de rendre quelqu'un infirme. C'est terrible. Exemple du magicien Élimas qui a été rendu aveugle. Paul a été guéri de sa cécité. Après avoir rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas, Élimas, le magicien, a été rendu aveugle pour avoir négligé de faire confiance au Seigneur. Et encore, même la puissance d'opérer, c'est certes Dieu qui le fait, mais regardez ce qui est arrivé à Ananias et Saphira, qui sont morts sur une simple parole, parce qu'ils avaient péché. Menti, désobéi à Dieu. La prophétie, capacité comme celle des prophètes de l'Ancien Testament d'annoncer un message de Dieu pour son peuple. Alors, dans le Nouveau Testament, on ne peut plus parler de prophétie. On ne peut plus parler de prophète en tant que tel pour prédire l'avenir. Toute la révélation a été terminée au moment où Jésus-Christ est venu, où il est mort et où il est ressuscité. La prophétie aujourd'hui, on pourrait dire que c'est le don d'édifier, d'exhorter, d'encourager les serviteurs qui en sont doués, ont un rôle important dans l'Église. Discernement des esprits, capacité de faire la différence entre une parole prononcée par quelqu'un qui est inspiré par Dieu et celle qui est dispensée par un imposteur. Paul a mis en garde à maintes reprises dans ses différentes lettres tous ceux à qui elles étaient destinées contre les faux docteurs. Et puis on en arrive sur deux dons. D'une part, diversité des langues, capacité de s'exprimer dans une langue. À l'époque, c'était une langue courante que l'on n'avait pas étudiée. C'est ce qui se passe dans le livre des Actes. Et la capacité de les interpréter, c'est-à-dire la capacité de traduire une langue qui nous est inconnue dans une langue compréhensible pour toute l'assemblée. Alors, ces dons, une fois énumérés, Paul rappelle qu'il procède du même esprit. Et comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas que ces dons spirituels de haute valeur qui doivent être mis en avant. Il en est d'autres. Paul va insister sur la complémentarité des dons. Plusieurs membres, un seul corps. C'est ce qu'il évoque dans les versets 12 à 31. Alors, à l'inverse de Luc, Paul n'était pas médecin. Il n'avait pas une connaissance approfondie du corps humain, comme Luc. Et pourtant, il y a une abondance de détails dans les différents organes qu'il va évoquer pour bien montrer, en similitude avec ce qu'est le corps humain, ce que représentent les différents dons au sein de l'Église. Dans l'Église, les dons de l'Esprit s'expriment à travers chaque enfant de Dieu. Personne ne possède tous les dons. Occasionnellement, quelqu'un peut en avoir plusieurs. Mais sans aucun doute, celui que nous avons, nous devons le mettre en exergue pour qu'il serve à tous. Or, à chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue de l'utilité commune. Et Paul donne plusieurs illustrations. J'en prendrai une qui est peut-être plus frappante. L'œil est l'organe de la vue. Et il est comparé à la main, qui est l'organe permettant de travailler. C'est difficile de travailler sans main. Certains croyants ont une vue claire, une intelligence, du discernement spirituel, une grande compréhension des choses de Dieu, passent beaucoup de temps à étudier sa parole, à essayer de comprendre le sens des Écritures. Par contre, ils passent peu de temps, ou beaucoup moins, aux tâches pratiques, pourtant nécessaires, indispensables dans la maison du Seigneur. D'autres, au contraire, sont des ouvriers infatigables dans l'œuvre de Dieu. Ils s'engagent et s'engagent toujours plus dans des tâches parfois difficiles. Et Paul dit, le danger est que l'œil dise à la main, je n'ai pas besoin de toi. L'expérience prouve que c'est habituellement le frère intellectuel qui est tenté de parler ainsi du frère qui est moins doué spirituellement, mais très engagé dans le service matériel, dans l'organisation de l'Église. Et Paul d'insister, tous les membres sont nécessaires. Et il y a des médecins parmi nous. La médecine, ces 20, 30 dernières années, a mis en évidence le rôle de certaines petites glandes de notre corps, jugées auparavant totalement inutiles, ou ayant un rôle accessoire. Or, on a montré qu'elles ont une telle importance que lorsque ces glandes cessent de fonctionner, l'organisme entier est perturbé, voire le corps ne pourrait survivre. Un pancréas qui sécrète une hormone, l'insuline. Sans pancréas, plus de vie. Aujourd'hui, certes, on a créé des insulines artificielles, mais tous ceux qui, dans les temps anciens, étaient atteints d'une dégénération du pancréas ou d'un diabète de type 1, étaient voués à une mort rapide et certaine. Remarquez que dans toute l'illustration que Paul donne, il insiste bien sur le fait que le corps humain est l'œuvre de Dieu. Une œuvre extraordinaire qui a conduit David à dire « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Psaume 139, 13 et 14. Quelle diversité! Quelle harmonie, quelle complémentarité dans cet ensemble d'organes du corps humain et dans l'Église, à travers la multitude infiniment variée des dons que Dieu nous a donnés par son Esprit. Ce n'est pas l'Église une organisation humaine, c'est un organisme vivant dont Christ est la tête. Et Paul insiste sur l'utilité de mettre au service des autres ce que Dieu nous a donné. Au point que si l'un est affecté, si l'un est touché dans son corps, dans son être intérieur, tous le sont. Il y a un besoin de mise en commun, de partage. Et les versets 18 à 24 montrent que tout a été voulu et conçu par Dieu. Tout différent que nous sommes, Dieu nous a donné une utilité dans son Église. Une chrétienne âgée ou infirme qui ne peut plus se déplacer peut, par ses prières, avoir un rôle essentiel au sein de l'Église. Et il en a été dans notre communauté. Si les apôtres et les prophètes figurent en premier dans la liste des dons, c'est qu'ils ont été les instruments les plus importants du Saint-Esprit au commencement de l'Église. Mais sans aucun doute, tous les noms, toutes les spécificités en tant que dons que Paul évoque là ne se trouvaient pas dans toutes les églises. C'est au sein de certaines que ces dons étaient manifestés pour l'utilité de tous. Enfin, une dernière remarque, je l'ai déjà dit. Cette énumération, elle n'est pas exhaustive. Elle sert à mettre en évidence que tous les membres du corps, quels qu'ils soient, chacun de nous, avons un rôle dans l'Église. Voyons maintenant le dernier point, l'objet ou le but des dons. Le plan de Dieu, son but pour les différents ministres, tels que ces dons ont été évoqués ici, dans l'Église, est dévoilé d'une manière claire. Il y a une part pour chaque croyant, et si ces dons sont accordés aux uns et aux autres, ils le sont pour manifester la présence dans l'Église de Dieu lui-même, à travers celui qui en est le chef, Jésus-Christ, et de le glorifier lui et lui seul. Il est la tête du corps. Et l'importance de rendre par notre service, par les dons que Dieu nous a donnés, toute la gloire à Dieu, a une utilité. Faire connaître Dieu autour de nous, le manifester. Et Paul évoque quelque chose d'extraordinaire à la fin de sa première lettre, au chapitre 14. Paul dit ceci, qui résume très bien le but des dons spirituels. « Si tous prophétisent et qu'ils surviennent quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés. De telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de nous. C'est un incroyant. Voir quelqu'un qui est peut-être même une personne hostile et qui vient dans l'Église et qui, voyant la qualité des dons, la mise en commun de chacun d'eux pour le bien de l'Église, voyant qu'il n'y a pas un égoïsme, mais au contraire un amour les uns pour les autres et un amour pour Dieu, va reconnaître que Dieu est là, que Dieu est présent, et peut-être se tourner vers lui. Dans la pensée de Dieu, les dons spirituels ont pour but d'apporter des bénédictions à l'Église dans son ensemble d'une part, mais aussi à tous les incroyants autour de nous. Pourvu des dons de la sagesse, de la connaissance, de chacun des dons que nous avons énumérés, l'Église de Corinthe était donc en mesure d'exercer un ministère apte à propager tout autour d'elle la lumière de Dieu, la lumière de son amour, remplissant d'étonnement tous ceux qui n'étaient pas accoutumés à entendre celui-là, parce que c'était un ancien esclave, ou celui-là, parce qu'il n'avait aucune capacité visible à rendre gloire à Dieu. Retrouvons encore un texte dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 1er, qui nous dit ceci. Cependant, Dieu a choisi les choses folles du monde pour convaincre les sages. Il a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Il a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. 1 Corinthiens 1, 27. Rappelons-nous que le membre unificateur dans le corps de l'Église, c'est Christ. C'est sa force, et sa force seule, qui permet de maintenir l'unité dans la diversité. Que Dieu agisse au sein de notre Église, au milieu de nous, afin que chacun de nous, en tant qu'individu, et chacun au sein de la communauté, puisse, par son témoignage et le service qu'il accorde à Dieu, rendre gloire et honneur à celui qui en est le chef, Jésus-Christ, et cela jusqu'à son retour.